Un commentaire sur 2 Thessaloniciens, document numéro F053. Il s'agit de la deuxième épître écrite par Paul aux Thessaloniciens et de la deuxième œuvre qui devait former ce qui allait être appelé le Nouveau Testament. Introduction. L'Église de Dieu à Thessalonique était constamment confrontée à une forte opposition, tant de l'extérieur que de l'intérieur, de la part des Juifs, de la synagogue, qui étaient présents et qui voyaient la foi comme le réel danger de leur croissance et les considéraient comme une secte hérétique. Face à cette opposition, l'Église a également été sabotée en utilisant la tente du Messie et la puissance nouvellement trouvée dans l'Esprit-Saint. Les démons ont attaqué l'Église avec de faux enseignements promus par les convertis parmi eux. Jusqu'à ce que Paul écrive sa première lettre aux Thessaloniciens, il n'existait pas d'autres écrits sur les Écritures autres que les textes hébreux, dont les Juifs convertis avaient une certaine compréhension. Cependant, les Grecs n'avaient que le texte de la Septante, qui était en fait leur seul accès aux Écritures. En dehors de la première lettre aux Thessaloniciens qu'ils venaient de recevoir, il n'existait aucun traité théologique ailleurs dans le monde autre que la Septante. C'était leur écriture dans son intégralité. D'une certaine manière, c'était une bénédiction en ce que les antinomiens n'avaient pas encore pleinement pénétré la foi avec leurs doctrines hérétiques concernant la loi et la nature de Dieu. Ils n'avaient pas non plus introduit le binitarisme d'Attis de Rome et les cultes du mystère et du soleil, bien qu'ils allaient venir au bout de quelques années en Galatie et à Colosse et dans une moindre mesure à Éphèse. Se référer au document d'étude des hérésies dans l'Église apostolique numéro 089. Paul fut bientôt obligé d'envoyer cette deuxième lettre pour faire face aux pressions et à la fausse doctrine qui était promue. Cette fausse doctrine a eu des conséquences de grande portée. Il suffit de regarder les hérésies complètes qui abondent au XXe et au XXIe siècle pour voir où tout cela a abouti avec toutes les fausses doctrines du Dieu triune, du binitarisme et le trinitarisme, numéro 076, du dithéisme, numéro 076b, le culte du dimanche remplaçant le sabbat et les nouvelles lunes et les fêtes qui seront rétablies par la force à la deuxième venue, voir Ésaïe 66, versets 23 à 24, Zacharie 14, versets 16 à 19, de Noël et de Easter, la Pâque païenne, numéro 235, et de l'élimination des lois de Dieu, voir le document numéro L1. Ces erreurs ont éliminé tous ceux qui les ont suivis de l'accès au royaume de Dieu et à la première résurrection, numéro 143a, et les ont tous consignés à la deuxième résurrection, numéro 143b, à la fin du millénaire, ce qui était leur préoccupation principale en suscitant les épîtres en premier lieu. Ici, Paul déclare l'homme de l'anarchie, ou l'homme impie, et la rébellion contre Dieu, voir ci après dans ce document. Aperçu du livre de Thessaloniciens par E. W. Billinger, la structure de l'épître dans son ensemble. Des Thessaloniciens 1, versets 1 à 2, épistolaire, introduction, la grâce et la paix. Des Thessaloniciens 1, verset 3, remerciement. Chapitre 1, verset 3 à 5, raison, leur foi, leur amour et leur patience. Chapitre 1, verset 6 à 10, l'obtention du repos et de la gloire. Chapitre 1, verset 11, la prière pour eux. Chapitre 1, verset 12, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Chapitre 1, verset 12, et qu'il se glorifie en lui. De Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 12, admonition, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Chapitre 2, verset 13, remerciement. Chapitre 2, verset 13, raison, leur salut. Chapitre 2, verset 14 à 15, l'obtention de la gloire. Chapitre 2, verset 16 à 17, et à chapitre 3, verset 1, prière pour Paul. Chapitre 3, verset 1 à 4, afin que la parole soit glorifiée. Chapitre 3, verset 5, et que leur cœur soit dirigé vers l'amour de Dieu. Chapitre 3, verset 6 à 15, admonition. Chapitre 3, verset 16 à 18, conclusion, la paix et la grâce. Note d'introduction de Billinger. Note 1. La deuxième épître à l'église des Thessaloniciens a été, comme la première, écrite depuis Corinthe. Et peu de temps après la lettre précédente, Silas et Timothée étaient tous deux toujours avec l'apôtre. Apparemment, elle a été sollicitée et envoyée afin de réparer pour ses destinataires, et pour nous aussi, les méfaits causés par les faux enseignants. Et la nouvelle révélation faite ici par l'Esprit-Saint à travers Paul concernant les choses à venir compromis dans Jean 16, verset 13, donne des détails importants liés à la venue de notre Seigneur et au jour du Seigneur. Paul a rappelé aux Thessaloniciens, voire 2 Thessaloniciens 2, verset 5, qu'il leur avait dit ces choses, mais une partie au moins avait repris la croyance que ce jour était déjà arrivé. 2 Thessaloniciens 2, verset 2, et voir aussi la note. D'où l'avertissement de l'apôtre selon lequel ce jour ne viendrait pas à moins que l'égarement ne vienne d'abord. Un avertissement bien nécessaire en ces jours où il est largement enseigné que le jour du Seigneur ne viendra pas tant que le monde ne sera pas converti à Christ. Note 2. L'importante prophétie concernant l'homme du péché ou l'homme de l'anarchie a fait l'objet de nombreuses interprétations divergentes. En ce qui concerne ses principales caractéristiques, aucune interprétation n'est nécessaire, car nous avons ici une déclaration prudente en termes simples d'événements qui étaient alors dans le futur et qui, n'ayant pas encore eu lieu, sont encore à venir. La prophétie est donnée dans un langage que le lecteur le plus simple peut comprendre. Il n'y a pas encore d'individu qui sera l'incarnation même de tout le mal, dont ceux qui sont opposés dans le passé à Dieu et à son Christ n'étaient que de faibles types. Le Seigneur le détruira par l'éclat de sa venue. On peut ajouter que tous les premiers pères croyaient que ce grand opposant serait un individu. De Thessaloniciens 1, verset 6 à 10, l'obtention du repos et de la gloire. Chapitre 1, verset 6, tribulation aux perturbateurs. Chapitre 1, verset 7, le repos à ceux qui sont troublés. Suivi de quand le Seigneur sera révélé. Chapitre 1, verset 8 à 9, vengeance aux ennemis. Chapitre 1, verset 10, quand il viendra, suivi de pour être glorifié dans les saints. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 12, admonition. Chapitre 2, verset 1 à 3, exhortation négative. Des Thessaloniciens 2, verset 3, l'apostasie ouverte. Chapitre 2, verset 3, l'homme du péché. Chapitre 2, verset 4, le caractère de ses actes. Chapitre 2, verset 5 à 6, exhortation positive. Chapitre 2, verset 7, le mystère secret. Chapitre 2, verset 8, l'impie. Chapitre 2, verset 9 à 12, le caractère de ses actes. Chapitre 3, verset 6 à 15, admonition. 3, verset 6, charge pour que les choses soient en ordre. Chapitre 3, verset 7 à 9, l'exemple de Paul et des frères. Verset 10, charge contre la personne qui ne travaille pas. Verset 11, un exemple d'un tel cas. Verset 12 à 13, charge contre le désordre. Verset 14 à 15, les désobéissants doivent être réprimandés. Fin de la citation de l'ouvrage de Billinger. L'homme du péché et l'apostasie, numéro 299E, l'homme du péché ou l'impie est mentionné dans les textes, et la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens a été écrite spécifiquement à propos de cet incident, du temps alloué et du moment, ainsi que de la séquence de l'apostasie et de la venue de Christ. Elle est écrite aux Thessaloniciens, au nom de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce texte ne peut donc pas être mal interprété comme étant un texte binitaire. L'Église à Thessalonique, a été bien fondée et procédée et allée de l'avant dans le Seigneur. Et il semble que les antinomiens se sont introduits au milieu de certains d'entre eux et qu'ils ont propagé l'hérésie antinomienne parmi eux. Et Paul a dû leur écrire pour les rassurer et aussi les soutenir dans leur affliction. Nous voyons cela dans 2 Thessaloniciens 1, verset 1 à 12, ci après dans ce document. Ils ont été traités très sévèrement à cause de leur foi et de leur observance des lois de Dieu. Et les antinomiens ont attaqué l'Église en se servant de cette observance comme un moyen de découragement. Ils doivent bénéficier d'un repos une fois que Christ reviendra. Et Christ rendra justice à ceux qui persécutent l'Église. La punition de ces gens est d'être détruits et exclus de la première résurrection. Toute personne qui essayerait de ne pas respecter ou tenir compte des lois de Dieu dans l'antinomisme devrait comprendre la punition qu'elle encourt, telle qu'elle est décrite au verset 9 à 12, ci-après dans ce document. Les fondements des attaques antinomiennes contre les églises de Dieu sont examinés dans le document d'étude intitulé « Les attaques antinomiennes sur la loi de Dieu » numéro 164D. Paul aborde ensuite le fait du deuxième avènement du Messie. Il doit y avoir une rébellion contre l'Église ainsi que contre les lois de Dieu avant que le jour du Seigneur n'arrive. Voir également le document d'étude « Le jour du Seigneur et les derniers jours » numéro 192. Nous verrons cela au chapitre 2, versets 1 à 17, ci-après dans ce document. Au verset 1 à 2, nous voyons qu'il n'y aura aucun besoin d'une lettre ni d'une parole disant « Le Seigneur est arrivé ». La rébellion doit venir en premier lieu, qui est en fait la rébellion contre les lois de Dieu, qui est basée sur l'homme de l'anarchie qui est révélé. Le mot grec pour la rébellion est « apostasia » ou « l'apostasie », qui est le détachement de ou la chute ou le fait de se détourner ou de s'égarer loin de la vérité et de la foi. La foi de laquelle il s'éloigne ou tombe est la loi de Dieu. L'homme d'anarchie, sans loi, est l'homme du péché, qui est la transgression de la loi, voire 1 Jean 3, verset 4. Le péché est l'anarchie, qui en grec est anomias, signifiant l'homme sans la loi. Le péché est la transgression de la loi. Tous ceux qui suivent cette doctrine selon laquelle la loi de Dieu est abolie sont des anomiens, ce qui signifie sans loi, ou antinomiens, ce qui signifie contre la loi. Ils sont une seule et même chose. Ils étaient les apostats de l'Église de Dieu dès le premier siècle. Nous les avons vus se développer au fil des années. L'apostasie s'est développée à partir du culte antinomien binitaire, du dieu Attis, ou Adonis, ou Osiris, ou Mitra, ou Baal, quel que soit le nom sous lequel il était adoré. C'en est venu au point où les églises de Dieu dans les nations occidentales sont pourries par l'antinomisme binitaire et ou trinitaire. Et elles ont perdu leur place dans la première résurrection, et elles pensent qu'elles sont justes à cause de cela. À l'époque moderne, l'apostasie a commencé par la fausse structure des églises de la Réforme, qui se sont développées à partir des églises de Dieu, qui ont été persécutées par le système romain. Elles sont devenues les protestants, qui ont de nouveau persécuté l'Église pendant des siècles. Ces églises se sont développées à partir de la structure de base des églises de Dieu de l'ère de Sardes, après la Réforme. La structure initiale a vu la chute des églises dans l'apostasie. Celles-ci étaient les étudiants de la Bible, qui sont devenus les témoins de Jéhovah. Ils ont déclaré que la loi était abolie et ont simplement abandonné toute prétention d'adoration au jour du sabbat et d'association avec les églises de Dieu. Le même effet a été réalisé dans l'église Church of God Seventh Day, église de Dieu du septième jour, quand les SDA, les Adventistes du septième jour, se sont écartés de l'église de Dieu du septième jour, Church of God Seventh Day, et ont abandonné la loi de Dieu pour n'observer que le sabbat et rien du reste ou des autres éléments du quatrième commandement. Ils sont ensuite devenus trinitaires en Occident dès l'année 1978. Et ont ensuite perdu l'Afrique à partir de 2003 à 2005. Herbert Armstrong et l'église RCG, Radio Church of God, et WCG, Worldwide Church of God, en français, Église de Dieu de la radio et Église universelle de Dieu, ont commencé la grande apostasie dans l'Église de Dieu, proprement dite, quand il a adopté le faux calendrier Hillel, avec les intercalations babyloniennes et les ajournements post-temple. Il a introduit le dithéisme, et plus tard, ce dithéisme est devenu le binitarisme et le trinitarisme. Il est devenu le berger idole, et a livré l'Église de Dieu à un apostat complet, qui a déclaré la loi de Dieu abolie, et la structure trinitaire d'être la structure et la nature de Dieu. Cet apostat a été tué au bout de 40 semaines, au jour et à l'heure ajustée du décalage horaire entre le moment où il a donné le sermon, et celui où les morts dans l'agonie. Les églises sont devenues les systèmes de Sardes et de Laodicée et ont détruit l'église de Dieu en Occident. Ces églises enseignent encore jusqu'à ce jour l'hérésie binitaire trinitaire et observent le faux calendrier Hillel ou aucun calendrier réel du tout dans certains cas. Cette apostasie se poursuivra maintenant jusqu'au témoin et ensuite jusqu'au Messie. Ces deux églises sur les sept ne verront que quelques-uns entrer dans la première résurrection. Nous allons maintenant examiner les textes pour voir comment nous pouvons identifier la structure ainsi que comment le faux système religieux de la prostituée et de ses filles prostituées fera partie de la structure des derniers jours. Paul explique comment ce mystère de l'anarchie était déjà à l'œuvre à son époque. Il est à noter à partir des versets 5 et suivants que le mystère a été retenu à l'époque, mais qu'il a été permis d'être révélé. le pouvoir de ce système antinomique et par le pouvoir de Satan. L'avènement final de cet impie, entre parenthèses sans loi, se fera par le pouvoir de Satan. Et ce système est capable d'être identifié par son rejet de la loi de Dieu. Ce système proviendra du christianisme et trompera, si cela était possible, même les élus. Voir Matthieu 24, verset 24, Marc 13, verset 22. Cela signifie que les églises de Dieu seront attaquées et qu'elles seront prises par cette apostasie et que de nombreux membres des églises de Dieu tomberont dans l'apostasie. Elles rejetteront la nature de Dieu et deviendront des binitaires, trinitaires, et elles deviendront des antinomiens. Voyons maintenant la forte illusion. Comment les églises de Dieu et le monde chrétien vont-ils pouvoir être trompés? Comment Judas acceptera-t-il ces mensonges antinomiens? Comment cela pourrait être utilisé par les systèmes trinitaires aussi bien que par Judas? Nous voyons au verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'injustice est l'action des gens contre la loi de Dieu. L'injustice est l'action des gens contre la loi de Dieu. La justice et la droiture, entre parenthèses la vertu, sont la même chose. L'injustice et l'iniquité est mesurée et déterminée par les lois de Dieu. Ainsi Dieu, par l'Esprit, a choisi dès le commencement ceux qu'il allait sauver. Et ces gens ne devaient pas être perdus par l'apostasie antinomienne. Voir les versets 13 à 15. Nous établissons à partir des versets 16 à 17 que le scénario de l'homme du péché ou l'impie est lors de l'avènement du Messie. Il y a donc une période de longue durée, au cours du temps de l'Église, jusqu'à la rébellion ou apostasia, qui est le fait de s'éloigner de la foi par rapport à la vérité. Il y a une rébellion de la foi et une apostasie ou abandon qui se produit, et apparemment allant même jusqu'à la venue du Messie. L'homme du péché ou le fils de la perdition prend sa place dans le temple de Dieu en se proclamant Dieu, petit d. Le temple a été détruit en l'an 70 de notre ère, et ce conformément au signe de Jonas, ainsi qu'à la prophétie des 70 semaines d'années. Voir le document d'étude le signe de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple, numéro 013. Et le commentaire sur Daniel chapitre 6 et l'épilogue. Le temple de Dieu était l'église des élus, ou des premiers-nés des saints qui ont été choisis et ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte de l'an 30 de notre ère, et par la suite, et ce, par le biais du baptême. Paul écrivait il y a près de 2000 ans, à compter du moment de la venue du Messie. Il y a aussi un grand nombre d'événements bibliques qui doivent se dérouler dans la structure de cette prophétie. La guerre dans les cieux devait se produire comme Dieu l'a dit dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6 montre que la femme qui devait donner naissance à l'enfant, qui était le Messie, était une entité permanente en cours et existait donc en tant qu'Israël, en tant que mère du Messie et des fidèles. Le dragon a été précipité sur la terre et il a pris avec lui un tiers de l'armée. La guerre a éclaté dans les cieux et Michaël, entre parenthèses Michel, a fait la guerre contre le dragon et l'a précipité sur la terre. Commentaire sur Daniel chapitre 12 et aussi Apocalypse 12 versets 7 à 9. Alors le Messie a reçu le pouvoir, Apocalypse 12 verset 11, et les élus ont vaincu l'adversaire par le sang de l'agneau. Et le diable était dans une grande colère parce qu'il savait que son temps était alors limité par la victoire de l'agneau. Voir Apocalypse 12 verset 12. Voyons maintenant la période allouée du déclin. Le dragon savait qu'il avait le temps limité dont il disposait, et il a poursuivi la femme qui était les élus de la foi. La femme a été envoyée dans le désert pour un temps, des temps et la moitié d'un temps de la persécution des élus. La période était de 1260 jours, année prophétique des élus dans le désert sous l'empire de la bête. La période devait durer à partir de l'an 590 de notre ère, lorsqu'elle a été établie par le faux système religieux de l'église pseudo-chrétienne sous Grégoire Ier, qui a établi le Saint-Empire romain. Elle devait durer jusqu'en 1850 de notre ère, avec un siège à Rome, mais s'est répandue dans le monde entier. C'était l'empire des deux pieds de fer et d'argile bourbeuse, qui a succédé aux jambes de fer, qui représentait l'empire romain, comme nous le voyons de la prophétie de Daniel chapitre 2. Il s'est terminé par le plébiscite en Italie en 1850, et les états pontificaux ont pris fin. Au cours de la période allant de 1850 jusqu'au début des guerres de la fin en 1916, conformément aux prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, la préparation pour les derniers jours a commencé avec la préparation du New World Order, nouvel ordre mondial, de l'empire de la fin des 10 orteils de Daniel chapitre 2, qui régnerait au dernier jour à partir de la fin du temps des gentils ou des nations en 1997. Voir les documents d'études, la chute de l'Égypte, la prophétie des bras cassés de Pharaon, numéro 036, et la partie 2, numéro 036-2. Ce système se déploie et est en passe de gouverner le monde à la fin de la période sous la direction du nouvel ordre mondial. Ce sera écourté et détruit par le Messie, qui est la pierre non taillée, non coupée, par des mains humaines, à Daniel 2, versets 44 à 45. Le Messie détruira tout ce système babylonien et la domination de ce monde et prendra le contrôle du monde dans les dernières années de la période se terminant en 2026-2027 de notre ère, soit exactement 40 jubilés ou 2000 ans après la formation de l'Église sous le Messie à partir de l'an 27 de notre ère, qui était la 15e année de Tibère lorsque Christ a été baptisé par Jean-Baptiste et que Christ a choisi ses disciples. L'Église a reçu l'Esprit Saint en l'an 30 de notre ère, lors de l'acceptation de Christ en tant qu'offrande de la gerbe agitée devant le trône de Dieu. Se référer à Actes chapitre 2, Apocalypse chapitre 4 et 5, se référer au document d'étude le moment de la crucifixion et de la résurrection numéro 159. Cela est par la consolation éternelle que Dieu nous a donnée à travers la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui réconforte nos cœurs et nous établit dans toute bonne œuvre et parole, qui est l'action des élus conformément au commandement de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ. Voyons maintenant la conclusion de l'Épître. La conclusion de l'Épître est de montrer que nous devons avancer avec hâte et triompher afin d'être délivrés du mal et des méchants et des hommes méchants qui n'ont pas la foi livrée aux saints une fois pour toutes. Le chapitre 3 montre que nous sommes sous la direction de l'Église dans l'amour de Dieu et la fermeté de Christ. Notez également que l'indolence ou l'inertie était un facteur en ceux qui n'étaient pas de la foi. Paul dit au verset 6 à 12 que nous ne devons pas vivre dans l'oisiveté et que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ces paresseux, oisifs, étaient aussi un fardeau pour les frères qui étaient exhortés à ne pas se lasser de faire le bien. Nous ne devons pas nous fatiguer à faire le bien. Voir le chapitre 3, verset 13. Les commandements de l'Église doivent être respectés et ceux qui désobéissent doivent être marqués. Voir les versets 14 à 16. Paul termine ensuite la lettre en disant qu'il a écrite de sa propre main. Nous savons que le texte est clair et que le cœur du texte se trouve dans le chapitre 2 comme suite. Il est clair que le surgissement ou l'émergence de l'homme du péché ou de l'anarchie précède le retour de Christ et que l'enseignement est entré dans l'Église apostolique au temps des apôtres. Paul a été contraint de s'occuper de cet enseignement faux. Et nous pouvons déduire ce qu'il en était à partir de l'enseignement de Paul sur l'hérésie. Cet aspect a été expliqué dans le document d'étude l'hérésie dans l'Église apostolique numéro 089. Voyons maintenant l'apostasie. L'égarement, l'abandon de la foi a commencé assez tôt. Christ avait ordonné les 70, comme nous le savons de Luc 10, verset 1, verset 17, et ils ont été envoyés et sont revenus après avoir reçu le pouvoir sur les démons. Leur position ont toutes été enregistrées par les disciples formés à Smyrne, à savoir Irénée de Lyon et Hippolyte d'Ostie Attique. Les détails se trouvent dans les documents d'études « Le sort des 12 apôtres », voir le document numéro 122b, « La mort des prophètes et des saints », numéro 122c, et « L'établissement de l'Église sous les 70 », numéro 122d. Linus est devenu le premier évêque de Rome, et ensuite sous Paul. Pierre a été l'apôtre de la dispersion à partir du Moyen-Orient, en nommant les évêques à Antioche et en allant vers les Parthes et les Scythes, etc. La pourriture a commencé sérieusement à Rome, en raison des cultes du soleil et des mystères, et surtout du culte du dieu Attis, là. L'établissement du dimanche comme jour du système soleil a été introduit dans le christianisme dès l'an 111 de notre ère. En l'an 154 de notre ère, l'apostat Anicetus fut nommé évêque à Rome et il a importé dans l'Église là le système d'Easter, la déesse, consort de Baal. En l'an 192, Victor a rendu obligatoire la communion avec Rome et les disputes quarto-décimènes ont divisé la foi Voir le document d'étude Les Disputes Quarto-Décimanes, numéro 277. À partir de ce moment-là, les schismes se sont simplement multipliés et l'Église a sombré dans l'apostasie, dont elle ne s'est jamais remise. Le dernier développement majeur dans la foi fut dans l'Église au Moyen-Orient, en l'an 608 de notre ère, lorsque le prophète Qasim a été appelé à la foi et que l'Église a reçu le Coran, ou un Coran. L'Église a émergé et s'est établie à Bekaa, Petra, et fut ensuite forcée à aller en clandestinité à cause des pseudo-musulmans à la Mecque et à Médine, et ce après les quatre califes correctement guidés et le meurtre d'Ali et de Hussein. Voir le résumé du commentaire sur le Coran, ou Coran, QS, et Bekaa et les quatre califes correctement guidés, numéro Q001D. La plus grande apostasie concernait la nature de Dieu, qui fut transformée en structure binitaire du système des cultes d'Attis et du soleil, et de là, elle descendit dans le système soleil de Baal, sous les prêtres de Mithra, Attis, Adonis et d'Osiris à Alexandrie. Dès l'an 381, le système a été transformé en système du dieu triune, et ce système a été ratifié en l'an 451 à Chalcédoine. Le système romain est ensuite devenu suprême après que les guerres unitariennes trinitaires, numéro 268, eurent cessé, ainsi que l'adoption du système cappadocien à Constantinople, et l'adoption du christianisme athanasien à Constantinople, et alors l'Église trinitaire est née. Le système a été ratifié en l'an 451 à Chalcédoine, puis déclaré Saint-Empire romain en l'an 530 de notre ère. Le Coran a été systématiquement détruit par les hadiths au 8e siècle et les églises de Dieu ont été forcées à aller dans la clandestinité à partir de l'an 664 de notre ère en Grande-Bretagne et au 8e siècle au Moyen-Orient. Voyons maintenant le péché en tant que transgression de la loi. La Bible est très claire sur le fait que le péché est la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4. Bien qu'il y ait un grand effort de la part des adorateurs antinomiens de Baal au 21e siècle pour dissimuler ou déformer ce fait. L'homme de péché dans le texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 est l'homme du péché dans certains textes, mais dans la plupart, c'est l'homme de l'anarchie, en grec, anthropos tes anomias. Voir l'interlinéaire RSV, Interlinear Greek English New Testament de Marshall. Initialement, l'intrusion du système Baal en utilisant Attis et Adonis et Mithra avec Sol Invictus et la Gabal des cultes du soleil et des mystères dans le christianisme et plus tard dans l'islam a essayé de divorcer l'Ancien Testament du Nouveau Testament en utilisant la distinction dans la loi, voire le document numéro 096 comme mécanisme. Ils ont inventé l'hypothèse que Christ avait cloué la loi sur le poteau, Colossiens 2,14, alors que c'était le chirographon ou la reconnaissance ou la facture de dette due à Dieu pour la transgression de la loi de Dieu comme péché qui a été payé par la mort de Christ. Les adorateurs de Baal sont venus avec leur fête du dimanche et le festival de Noël du solstice et la naissance du soleil invincible produit par la Vierge à la grotte les 24-25 décembre à partir de Syrie en 375 de notre ère et aussi la fête de la déesse Easter ou Ashtoreth, Astarté, au lieu de la Pâque Quarto-Décimane, comme cité ci-dessus dans ce document. Voir les origines de Noël et de Easter, la Pâque païenne, numéro 235. Les antinomistes ont également introduit la doctrine du ciel et de l'enfer et de l'âme immortelle et l'ont introduite dans le christianisme et plus tard dans l'islam. Toute personne qui célèbre le dimanche et qui échoue à observer ou ne respecte pas le sabbat de la loi de Dieu et qui dit que quand elle meurt, elle va au ciel est un infidèle. Voir aussi Justin Martyr dans son ouvrage Dialogue, la section 80. Ces gens ne sont ni chrétiens, ni des vrais musulmans, musulmans, ce qui est la même foi. Se référer aussi à la Sourate 454. Se référer aussi les attaques antinomiennes sur la loi de Dieu, numéro 164D, et le déni antinomien du baptême, numéro 164E. Le christianisme a été presque éliminé par ces adeptes ou adorateurs de Baal, qui se font passer pour des chrétiens, et qui pratiquent le culte du dimanche, et qui affirment que les lois de Dieu ont été abolies. Se référer aussi la destruction antinomienne du christianisme par une mauvaise utilisation de l'écriture, numéro 164C. De même, le pseudo-islam a promu que la charia a remplacé la loi de Dieu, telle qu'elle est énoncée dans le Coran. Toute personne qui affirme ou avance ces affirmations sera envoyé à la deuxième résurrection pour être formé et se recycler à la fin du millénaire dans la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc. Voir le document numéro 143b. Même les églises de Dieu des derniers jours ont été presque détruites par le dithéisme. Voir le document numéro 116b du culte de Baal, ou le binitarisme et le trinitarisme, numéro 116, et ce par l'introduction d'hérétiques, parmi ses membres et dans son ministère au cours du siècle dernier ou plus. Se référer également la déformation par les binitaires et les trinitaires de la théologie de la divinité des premiers temps, numéro 127b. L'histoire des églises de Dieu est importante pour comprendre le christianisme et ce qui lui est arrivé. On peut le constater dans les textes de la distribution générale des églises observant le sabbat, numéro 122, et du rôle du quatrième commandement dans les églises de Dieu observant le sabbat, numéro 170. Voyons maintenant l'homme du péché en tant qu'un système. Il devrait être évident maintenant que l'homme du péché ne peut pas être un seul individu. C'est plutôt la personne qui passe de temps en temps comme le chef ou dirigeant du système d'anarchie qui s'est introduit sous l'influence de Satan dans le temple de Dieu. Ces dirigeants siègent dans le temple ou dans des institutions se réclamant temple de Dieu au fil des siècles. Ils ont depuis longtemps perdu toute autorité en tant que temple de Dieu, même s'ils étaient encore très éloignés lorsque Paul a écrit sa lettre aux Thessaloniciens. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes tentent de prétendre que le temple doit être reconstruit à Jérusalem pour réaliser cette prophétie, ce qui n'est pas nécessaire. Le temple sera reconstruit par le Messie et les élus pour le millénaire, mais cela n'est pas nécessaire pour accomplir cette prophétie, bien qu'il y ait un effort et un mouvement en ce sens. Au fil des ans, les prêtres de Baal ont pris le siège à Rome et ont introduit le système des cultes du soleil et des mystères. Ils sont devenus le chef du système babylonien des pieds de fer et d'argile bourbeuse, et des 10 orteils de fer et d'argile bourbeuse du dernier empire, avant le retour du Messie et la destruction du système babylonien détaillé dans Apocalypse chapitre 18. La déclaration de l'infaillibilité du pape et le fait qu'il a pris place dans le soi-disant temple de Dieu à Rome datent du 19e siècle, et leur position a atteint le sommet de leur blasphème. C'est également à cette époque qu'ils ont déclaré le pape comme vicaire du Fils de Dieu, ou Christ. Il a donc été déclaré Elohim, ou Dieu, en tant que Fils de Dieu à la place de Christ. Le 20e siècle a vu leur effondrement dans l'infamie, et les filles prostituées de la prostituée reviennent dans les jupes de la prostituée, telles que prophétisées par la révélation, l'Apocalypse, en raison de leur effondrement interne au niveau international. Elles ont depuis longtemps cessé de fonctionner en tant que temple de Dieu. Leur système est idolâtre, et elles seront détruites. L'antinomisme des derniers jours, la marque de l'Église, ainsi que l'antinomisme des derniers jours, ont été identifiés par Christ. Christ l'a identifié comme étant l'antinomisme. Nous allons le lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 9 à 10. « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Version du second. Et Matthieu 24, versets 11 à 12, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, voir le dictionnaire grec de son 458, le terme est anomia, absence de loi. Parce que l'iniquité, anomia, absence de loi, se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Version du second. Nous sommes persécutés et n'avons que l'un l'autre pour nous accrocher à la foi. L'anarchie abonde chez ces prédicateurs antinomiens de la fin des temps. En conséquence, l'amour de Dieu se refroidit dans plusieurs, y compris au sein de ces faux prédicateurs eux-mêmes. Ils n'ont pas l'amour chrétien qu'ils proclament posséder. Comme nous l'avons exposé plus haut, Christ nous a donné l'avertissement et mis en garde contre les problèmes qui assaillent les églises de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Version du second. Au cours des dernières décennies, les églises de Dieu ont été trompées, en particulier dans le monde occidental. Et l'antinomisme et les faux ministres sont monnaie courante parmi elles. L'histoire de nos doctrines est claire et est comprise par les élus. Et les élus ne sont pas trompés, mais l'Occident a été terriblement trompé et perdra sa position dans le royaume s'il ne se repent pas. Voyons maintenant l'illusion finale. La forte illusion, ou dit aussi autrement puissance d'égarement, est développée dans les derniers jours avec toutes sortes de signes et de prodiges. La base de la manière dont les éléments chrétiens et autres ainsi que les juifs eux-mêmes seront probablement trompés est au moyen des lois noahides. Voir le document numéro 148. Cette apostasie a été établie et acceptée par la papauté afin que le sabbat ne soit le droit que des juifs seuls et non des chrétiens. Et ainsi les juifs vont faire valoir le calendrier Hillel et leurs traditions. L'observance des vrais sabbats, des nouvelles lunes et des jours saints par l'Église de Dieu sera persécutée et sera rendue presque impossible à observer. Alors que les chrétiens seront reconnus comme ayant le droit de conserver le dimanche et leur tradition, le reste de l'islam conservera la soirée de préparation du vendredi pour la prière, faussement appelée le Jumaha, en tant qu'un sabbat de l'islam, quand il n'était pas et n'est pas un jour de sabbat, mais simplement la préparation pour le jour du sabbat. Voir le document d'étude le sabbat dans le Coran, numéro 274, et le Jumaha, la préparation pour le sabbat, numéro 285. Ainsi, avec un ensemble de règles de base qui prétendent être applicables en vertu des lois de Dieu, mais qui ignorent la plupart d'entre elles et limitent le sabbat au judaïsme apostat, la forte illusion sera donnée à plusieurs, et l'homme du péché deviendra bien établi, renforcé, dans l'hérésie antinomienne, et soutenu par le pseudo-christianisme apostat, et le pseudo-islam apostat, et par le judaïsme corrompu. Voyons les commandements de Dieu. Les ordres de Christ aux élus sont d'endurer, de persévérer jusqu'à la fin dans la patience. Et ils sont identifiés dans cette endurance par leur observance des commandements de Dieu et de la foi ou du témoignage de Jésus-Christ. Leur récompense est le droit à l'arbre de vie et l'entrée à la cité de Dieu. Voir le document numéro 180. Lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Version du second. Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Version du second. Apocalypse 22, verset 14, bénis sont ceux qui font ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes dans la ville. Version King James en français. Le sabbat est lié à l'alliance dans le Coran, comme nous le voyons dans le texte de la Surat 454, et les lois de l'islam et du christianisme sont liées aux Écritures et au Coran, ou Coran. Voir le résumé du commentaire du Coran, ou Coran, QS. La loi de Dieu procède de sa nature même et donne la définition et le sens à son amour, dont le Messie nous a donné l'exemple. Dieu est amour. Ce n'est pas un choix entre la loi de Dieu et l'amour chrétien. Tout comme les antinomiens tentent de séparer la loi de Dieu de sa grâce, ils ne peuvent pas séparer l'amour de Dieu de sa loi. La loi de Dieu, sa grâce et son amour, tous œuvrent ensemble pour le bien de sa création. Nous lisons dans Matthieu 19, verset 17, « Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Version du second. Voyons maintenant les outils de Satan dans le pseudo-christianisme et le pseudo-islam. Les extraits suivants, provenant des documents d'études, sont pertinents en rapport à l'affaiblissement de la foi par Satan et ses larbins. À partir du texte sur le binitarisme et le trinitarisme traitant des fausses doctrines insérées dans le christianisme, nous lisons « L'élévation de Christ à l'égalité avec le Dieu Très-Haut a alors permis à l'Église de revendiquer l'autorité de Dieu et ainsi de changer les temps, voir Daniel 2:21 et la loi, telle que prophétisée par Daniel, Daniel 7:25, et donc délimer, affaiblir les saints du Très-Haut. Ainsi l'homme d'anarchie ou l'impie cherche à s'approprier l'autorité du Christ en tant que son représentant spécifique sur la terre et à devenir ainsi, dans ce contexte, Dieu. La Trinité est un prérequis théologique pour conduire les élus à l'antinomisme et à l'anarchie. Elle a été permise d'être établie dans l'Église pour la troisième occasion majeure dans l'histoire de l'Église. Pourquoi en était-il ainsi? La réponse est parce que c'est le test des élus dans les derniers jours. N'échouez pas à votre test. Se référer au document binitarisme et trinitarisme numéro 76. Nous passons ensuite au texte de la relation entre le salut par la grâce et la loi. Document numéro 082. L'activité de Satan est dirigée à établir un système au sein du temple de Dieu, afin de le profaner par un système qui cherche à égliner les lois de Dieu, et qui tromperait même les élus si c'était possible. L'amour de la vérité est essentiel pour le salut des élus dans cette question. Les élus ont eu à se battre contre cette forme de duperie au cours de la période entière de l'Église jusqu'à l'avènement du Messie. En outre, l'argument a été vu dans 1 Jean, provenant du modalisme comme étant une première forme triune qui a finalement abouti à la Trinité. Les autres conséquences de cette erreur ont été vues à Colosse, en Galatie, ainsi qu'à Éphèse. L'amour de la vérité est la marque des élus. Ceux qui ne rejettent pas cet argument et qui n'observent pas les commandements de Dieu sont rejetés par Dieu. Ce processus est le plus évident et le plus sévère dans les derniers jours et dans les églises de Laodicée et de Sardes. Ces deux églises sont rejetées et seuls quelques individus sont sauvés. Voir le document numéro 082. L'homme du péché est l'Antichrist qui est identifié et ce système est identifié par leur rejet des commandements de Dieu et ils ont pénétré, imprégné et corrompu les enseignements chrétiens pendant des siècles. Vous les reconnaissez quand ils disent que la loi de Dieu est abolie ou que la charia remplace la loi de Dieu dans le pseudo-islam. Leur temps est presque écoulé. L'antinomisme sera anéanti par le Messie à son retour avec ceux qui l'enseignent. Nous allons maintenant lire le texte dans son ensemble, des chapitres 1, 2 et 3 de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifié en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons au chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Chapitre 3. Orestes, frère, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à personne, à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger de leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, marquez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas, cependant, comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Version du second. Si après, dans ce document, les notes de Bullinger sur 2 Thessaloniciens de la Bible version King James, ces notes sont disponibles en anglais uniquement. Fin de la lecture du commentaire sur 2 Thessaloniciens, document numéro F053.